Vous êtes sur RTL. Régional 2021.
RTL Midi en direct de Roubaix. Christelle Rebière.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Et en ce mercredi 2 juin, nous donnons donc le coup d'envoi des élections régionales sur RTL depuis Roubaix, une ville de 100 000 habitants dans la métropole lilloise. Nous sommes installés sur le parvis de l'hôtel de ville, un bâtiment cossu qui incarne les splendeurs de l'époque de l'industrie textile, une industrie qui tente de renaître, notamment avec l'atelier Résilience, qui après avoir fabriqué des masques, produit des t-shirts.
J'ai travaillé en confection quand j'avais 16 ans. Pendant 18 ans, et après je suis partie en logistique parce que la confection avait disparu. Là, j'ai eu l'occasion, après 2 ans de chômage, de retrouver cette place-là. Moi, je suis contente.
Nous irons aussi dans la cristallerie d'Arc qui se bat pour maintenir 5000 emplois. Un drame en Ardèche, un homme de 37 ans a tué son père et grièvement blessé sa mère à coups de couteau. À Saint-Just d'Ardèche, il a fallu mobiliser 160 militaires pour le retrouver dans la matinée. Faut-il vacciner les adolescents? C'est l'un des thèmes abordés ce matin en Conseil de défense. Où en est l'épidémie de Covid ici à Roubaix? Le directeur de l'hôpital, Maxime Morin, sera l'invité d'RTL Midi. Emmanuel Macron on tour. Le chef de l'État va s'offrir une dizaine de dates en région pour prendre le pouls du pays. Il sera cet après-midi dans le Lot à Saint-Cirq-la-Popie. Un trio de rêves, mais qu'ont-ils dans les jambes? Pour la première fois, on verra jouer ensemble Mbappé, Benzema, Griezmann. Premier match de préparation à l'Euro face au Pays de Galles ce soir à Nice. La météo. Bonjour Peggy Broche.
Bonjour Christelle.
Un grand ciel bleu ici à Roubaix. Vous auriez dû venir avec nous. Des températures estivales, mais c'est quasiment une exception.
Eh bien oui, parce que les orages arrivent au nord. Alors peut-être pas avant la soirée du côté de Roubaix où vous êtes, c'est vrai. En attendant, le ciel devient de plus en plus menaçant au nord et des averses orageuses sont attendues cet après-midi localement fortes avec de la grêle entre la Picardie, l'Île-de-France, la Normandie, les Ardennes en allant vers le centre, entre les Pyrénées et les Alpes et en remontant vers le nord-est. Un temps instable mais surtout des averses, un coup de tonnerre possible en montagne. Et en revanche, le soleil va revenir sur la Côte d'Azur et de belles éclaircies également sur la façade atlantique, le tout sous des températures encore élevées, comprises entre 19 et 28 degrés.
La question du jour sur RTL.fr à propos des élections régionales et départementales. Comptez-vous aller voter? Il y a 65% de oui, 29% de non. On attend vos appels, bien sûr, au 3210. Bonjour Pascal Pro.
Bonjour Christelle. Effectivement, ce sera une de nos interrogations. Fallait-il rééditer Mein Kampf, le manifeste nazi d'Adolf Hitler, sera une autre de nos interrogations. Vous pourrez également réfléchir à la vaccination des adolescents contre la Covid-19. La Haute Autorité de Santé s'apprête à donner son avis. Qu'en pensez-vous? Le billet de train, c'est une antienne. Coûte-t-il trop cher? Et la réponse est oui. Parce que si vous partez en famille, c'est évidemment plus cher qu'en voiture. Et puis sur la route de l'Euro, vous l'avez dit Christelle, l'équipe de France, ce soir, affronte ou commence sa campagne de préparation à l'Euro. Voilà Christelle, et je vous félicite parce que vous marchez sur la route des plus grands. Vous avez fait Paris-Roubaix.
C'est déjà ça.
Christelle Robière,
RTL Midi, en direct de Roubaix.
Après les Cévennes et la Dordogne, encore une chasse à l'homme. Cette fois en Ardèche, un homme de 37 ans a tué son père et grièvement blessé sa mère à coups de couteau la nuit dernière dans la maison familiale à Saint-Just d'Ardèche. Un appel à témoins a dû être lancé. 160 militaires étaient mobilisés pour le retrouver. Il a finalement été retrouvé il y a moins d'une heure, Frédéric Perruche.
Exactement, une dizaine d'heures de cavale seulement pour Maxime Coulanges, qui a finalement été interpellé à quelques kilomètres du village dans un champ sans violence, comme l'explique avec soulagement le général Laurent Tavel, venu superviser les opérations de recherche des gendarmes.
Il sortait à ce moment-là d'un champ où il y avait des herbes hautes, donc où il n'était pas forcément visible. Et un véhicule du peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie du Teil, qui arrive à ce moment-là, l'a vu traverser la route. Il a vu le véhicule gendarmerie, il s'est arrêté et s'est immédiatement rendu sans aucune opposition à la patrouille de gendarmerie qui passait à ce moment-là.
L'homme de 37 ans n'avait plus sur lui le couteau qu'il a utilisé pour tuer son père la nuit dernière et blesser gravement sa mère aujourd'hui hors de danger. Très agité lors de son interpellation, je l'ai entendu crier dans un fourgon de gendarmerie. Je suis présumé innocent à de multiples reprises. Il devrait être présenté à un médecin pour vérifier si son état de santé est compatible avec une garde à vue. Il souffre de troubles psychiatriques, ce qui pourrait expliquer cette effroyable agression au couteau contre ses parents avec qui il vivait à Saint-Just d'Ardèche.
Frédéric Perruche, en direct de l'Ardèche, donc pour RTL. Sachez aussi qu'à Saint-Étienne-le-Lauz, dans les Hautes-Alpes, un forcené armé de 48 ans, retranché chez lui depuis hier après un différend avec sa mère, a été neutralisé ce matin par le GIGN. Blessé au thorax, il est décédé. Et puis à Douai, l'homme de 38 ans, soupçonné d'avoir tué sa compagne Aurélie ce week-end après l'avoir martyrisée, vient d'être mis en examen pour homicide sur conjoint. Et si on vaccinait aussi les adolescents? La question était sur la table du Conseil de défense ce matin. La Haute Autorité de santé dira ce qu'elle en pense demain. Arnaud Fontanet, l'épidémiologiste et membre du Conseil scientifique, était l'invité d'Yves Calvi ce matin sur RTL. Il estime que la vaccination des plus jeunes sera indispensable si on veut contrer les variants.
On a ce fameux variant anglais qui est devenu largement majoritaire. Il y a un variant indien qui est actuellement au Royaume-Uni, qui est encore plus transmissible que le variant anglais, qui inévitablement va arriver sur le territoire français, pas forcément du Royaume-Uni parce qu'il arrive de beaucoup d'autres endroits, et qui lui étant extrêmement transmissible va également gagner du terrain. Et ce que ça veut dire, c'est que parce qu'on est avec des variants plus transmissibles, la proportion de la population qui doit être vaccinée pour que le virus s'arrête de circuler de façon épidémique, augmente. Il faudra 80% immunisés, c'est-à-dire protégés, que ce soit par infection ou vaccination. Comme on a des vaccins qui ne sont pas 100% efficaces, il faut que 90% de la population soit vaccinée. Et vous comprenez donc que pour atteindre 90% de la population vaccinée, il faudra vacciner d'abord les adolescents et se poser la question pour les enfants une fois qu'on aura des données sur la tolérance de ce vaccin chez les moins de 12 ans.
Et aux États-Unis et au Canada, la vaccination pour les plus de 12 ans a déjà commencé. En attendant, le centre de vaccination le plus important des Hautes-Alpes, installé à Gap, dans une salle communale, a été partiellement détruit par un incendie la nuit dernière. Une enquête a été ouverte pour savoir s'il s'agit d'un accident ou d'un incendie volontaire. Nous ne sommes pas sortis de la crise sanitaire, mais profitons-en pour faire le point ici à Roubaix avec le directeur de l'hôpital. Il vient de nous rejoindre sur le parvis de la mairie. Bonjour Maxime Morin.
Bonjour.
On a envie avec vous de faire un petit bilan de santé. Vous dirigez le deuxième hôpital de la métropole lilloise et vous êtes aussi l'un des premiers employeurs de la ville, hein, avec plus de 3200 médecins et agents hospitaliers. D'abord, comment ça va ?
La décroissance, la décrue du Covid est largement entamée, ça c'est certain. Le reste des pathologies et des patients, des usagers toquent à l'hôpital. Il faut gérer cette descente d'un côté et cette croissance de l'autre. D'autant qu'on est à quelques semaines de l'été, donc on sait qu'on a une petite fenêtre de tir pour reprendre nos activités de manière normale. Et puis en parallèle, les équipes sont évidemment très fatiguées, beaucoup d'épuisement, beaucoup de lassitude. On a été quand même très actifs et puis un peu, j'allais dire, monopathologie pendant déjà plusieurs mois. Et du coup, il y a une grande lassitude de la part des équipes. On essaye de gérer cette reprise d'activité dite normale en tenant compte de cet élément.
Vous parlez de lassitude, il y a eu des démissions, est-ce que vous avez mis en place des équipes de soutien psychologique? Comment avez-vous fait?
Alors on a bien sûr accompagné nos équipes au plan psychologique, plus globalement l'encadrement, les équipes médicales, tout ça a été fait, il y a eu de la formation, on a essayé d'éviter, je dirais, que des gens ne soient pas mis en difficulté par la prise en charge du Covid. Mais voilà, on est à un moment où les gens peuvent faire des arbitrages de vie, de carrière. Et on est évidemment vigilant, on enregistre, on essaye de regarder ce qui se passe pour éviter qu'on ait trop de départs et puis surtout voir les gens avant que la question ne se pose.
La diminution du nombre de cas de Covid a été plus lente à Roubaix par rapport au reste de la région. Est-ce que vous savez pourquoi ?
Non, c'est difficile de donner des explications. Je pense qu'on en aura peut-être au plan épidémiologique plus tard, dans quelques semaines, dans quelques mois, quand on pourra analyser la situation. C'est sûr qu'on a connu des très grandes différences entre chaque vague. Nous avons été très touchés à la deuxième vague, à la rentrée septembre, octobre, novembre de l'année dernière, avec un phénomène de pic très violent. Si on prenait la montagne, c'était vraiment très haut, mais ça montait très vite. Et à l'inverse, en ce début d'année, c'est monté doucement, lentement, mais ça n'a pas atteint le pic qu'on avait connu en octobre, mais c'est resté très longtemps présent dans nos services, auprès de nos équipes.
Ici, à Roubaix, la pauvreté touche plus de 4 personnes sur 10. Ça se ressent aussi, évidemment, sur leur état de santé. C'est une population en grande fragilité qui ne veut pas toujours aller chez le médecin.
Oui, c'est une des difficultés. Et quand on parle de l'accès aux soins, on pense bien sûr aux établissements, on pense aux médecins, aux professionnels de santé qui sont présents ou pas sur le territoire. La ville de Roubaix et son environnement n'est pas forcément défavorisé par rapport à d'autres zones de la région sur ce point.
Oui, mais par contre, vous êtes plutôt bien doté en médecins généralistes.
Oui, d'une part à l'extérieur de l'hôpital, en professionnels de ville en général, en professionnels libéraux, et puis à l'hôpital, on a de belles équipes, on a des établissements dans la région qui sont en plus grande difficulté que nous, c'est certain sur ce point. Mais il faut amener les populations parfois aux soins, il faut aller les chercher. C'est pas notre travail au quotidien, mais il faut les convaincre de participer, d'être acteurs de leur prise en charge.
Quelles leçons vous tirez de cette pandémie, vous aujourd'hui, dans votre organisation à l'hôpital? Est-ce que vous avez appris des choses et est-ce que finalement il y a des choses qui se sont installées, des modes de fonctionnement auxquels vous n'aviez pas pensé avant et qui vont vous servir pour l'avenir?
Je dirais qu'on a démontré, si c'était nécessaire pour l'hôpital public en général et les professionnels de santé et les hospitaliers, qu'on était très adaptable parce qu'on a beaucoup déplacé de personnel, on a beaucoup arrêté d'activités, déplacé des activités pour justement répondre à la crise Covid. La problématique aujourd'hui, on le voit, c'est sa durée et cette adaptation ne peut pas être permanente. Il faut qu'on retrouve aussi, y compris d'ailleurs pour les patients, des modes de fonctionnement entre guillemets normaux, parce qu'il y a toutes les pathologies dont certaines parfois ont dû être écartées ou reportées, les prises en charge. Donc il y a ça. On a beaucoup travaillé ensemble, les équipes de soins, les équipes médicales, les équipes administratives. Je dirais que ça a ressoudé l'hôpital autour de ses valeurs, autour de sa nécessité, de sa place dans la ville, de sa place dans la société. Voilà. Et puis après, ben, je dirais, il faut aussi qu'on retrouve un mode de fonctionnement, encore une fois, plus classique, parce que la vie doit reprendre ses droits dans toutes ses dimensions.
Et financièrement, comment avez-vous tenu? C'est le moment de demander de l'argent, hein, puisqu'il y a les élections régionales qui arrivent.
Alors, vous le savez, il y a eu beaucoup d'impact sur l'hôpital et sur la fonction publique hospitalière plus globalement du fait de cette crise. Le déclenchement de ce qu'on appelle le Ségur, qui quand même amène beaucoup d'argent en termes de rémunération pour les professionnels. Alors, certains pensent que ce n'est pas suffisant, mais il y a eu clairement des évolutions fortes. En termes d'investissement aussi, donc ça va changer un peu la donne pour les établissements de santé notamment. Maintenant, voilà, la question du comment ça sera demain reste une question qui est posée. Et les garanties de financement qu'on avait pendant la crise Covid ne vont pas durer éternellement. Et je pense que les débats autour du financement de l'hôpital vont réapparaître.
Et on reviendra vous voir ici à Roubaix pour faire un bilan dans les prochains mois, pour voir comment ça se porte du côté de l'épidémie et de l'hôpital. Merci beaucoup Maxime Morin.
Avec plaisir, merci.
Merci d'être venu. Nous sommes toujours en direct de Roubaix, donc sur le parvis de la mairie. Dans un instant, le reste de l'actualité avec notamment ce nouveau Tour de France d'Emmanuel Macron.
RTL Midi, en direct de Roubaix.
Christelle Robière.
RTL Midi, en direct de Roubaix.
Il s'offre un Tour de France avant le Tour de France. Emmanuel Macron part en tournée. Il commence par le Lot, avec l'un des plus beaux villages de France, Saint-Cirq-la-Popie, histoire de prendre le pouls du pays. Tour de chauffe avant la présidentielle ou prise de contact. Vous allez en parler avec les auditeurs au 32-10, Pascal Pro.
Oui, Christelle, et objectivement, c'est son meilleur rôle. C'est-à-dire que lorsqu'il parle parfois à la télévision, il a un ton qu'on peut discuter. Il n'est pas toujours forcément... Il y a quelque chose parfois un peu d'artificiel, mais lorsqu'il est au milieu des autres, lorsqu'il est dans une position de grand débat, lorsqu'il dialogue avec les uns et les autres, c'est là qu'il est le plus efficace. Et souvenez-vous, quand il avait inventé le grand débat, c'était après la crise des Gilets jaunes, au mi-janvier, il y a donc 2 ans, et il avait réussi pendant 3 mois, avec un grand débat, à renverser un peu la vapeur, à être assez convaincant. Donc j'imagine qu'il part en campagne avec cette idée de convaincre le plus grand nombre en même temps que d'écouter. Même si d'écouter, il parle plus souvent qu'il n'écoute, le président de la République. Mais ça sera pour lui un challenge.
Non, mais c'est vrai que c'est un exercice qu'il affectionne. Benjamin Sportouche, Emmanuel Macron a-t-il déjà l'esprit à la présidentielle?
Écoutez, Christelle, je suis tenté de vous répondre que ça ne l'a pas quitté dès le lendemain de son élection, le 7 mai 2017, mais comme ses prédécesseurs, Nicolas Sarkozy et François Hollande avant lui. Alors pourquoi? D'abord parce que la conquête, eh bien, ça fait partie de l'ADN des vrais politiques. Et puis surtout, le quinquennat a accéléré le rythme électoral. Donc oui, il y a une forme de campagne permanente. Alors ce Tour de France prévoit une dizaine d'étapes tout le mois de juin. Ça commence aujourd'hui à Saint-Cyr-la-Popie dans le Lot, et dès ce soir, premiers échanges avec des habitants. Objectif, ne pas apparaître hors sol. Hein. Vous savez, c'est un peu le talon d'Achille d'Emmanuel Macron, parce qu'il n'a pas d'ancrage électoral. Et puis, sentir le terrain, comme vous le disiez, par exemple, pour savoir s'il doit ou non lancer une réforme bis des retraites. J'imagine, Pascal, que vous allez en parler. Ces rencontres sans filtre, vous l'avez dit, c'est un exercice qu'il affectionne. Et le grand débat, eh bien, lui a plutôt réussi. Mais attention, c'est toujours risqué, contrairement à ce que... Là, je ne suis peut-être pas d'accord avec vous, Pascal. S'il y a des échanges musclés de mauvaises images, eh bien, à quelques jours du premier tour des régionales, ça peut se payer dans les urnes, et c'est une élection qu'Emmanuel Macron a aussi dans son viseur.
Et dites-nous ce que vous en pensez au 32-10. Merci à tous les deux. Pour les élections régionales dans les Hauts-de-France où nous sommes, Xavier Bertrand arriverait en tête du premier tour avec 30% des voix, à 2 points devant le candidat du Rassemblement National, Sébastien Chenu. D'après notre dernier baromètre BVA Orange RTL, 22% pour la gauche rassemblée derrière Karim Adeli. Quant à la liste LREM qui compte quand même 5 ministres, elle culmine à 13%. Ici à Roubaix, l'un des enjeux de ces élections régionales, c'est l'emploi, puisque le taux de chômage y est supérieur à celui de la moyenne nationale, à 11,4% de la population active. Il frôle même 50% chez les jeunes. Nous partons à Arc, où la célèbre cristallerie a failli disparaître l'an dernier, mais les investisseurs ont choisi de sauver 5000 emplois en réinjectant massivement de l'argent, Vincent Derosier.
Oui, et c'est aussi ce son Made in France qui a failli disparaître. Arc et ses flûtes à champagne, ses verres, ses assiettes de couleur, c'est la fierté de toute une région, un joyau en péril aussi. L'entreprise a perdu 100 millions d'euros l'an dernier. Le directeur général Tristan Borne s'est même demandé s'il allait devoir fermer les usines.
Du jour au lendemain, on nous a dit il n'y a plus de clients. L'arrêt des fours aurait été la fin de vie de Arc, puisque on n'aurait pas survécu à une telle baffe. Mais très rapidement, c'est inscrit en fait dans le projet du futur. Qu'est-ce qui va se passer après le Covid ?
Mais au lieu de licencier, l'actionnaire a remis la main à la poche et le retour à l'équilibre financier est espéré dans 2 ou 3 ans.
Et c'est devenu aussi un enjeu politique.
Oui, national, régional, local. Impossible pour Emmanuel Macron, par exemple, de laisser mourir un symbole du Made in France à un an de la présidentielle. Xavier Bertrand, lui aussi, a sorti le chéquier de la région et les salariés que j'ai pu rencontrer se sentent soutenus.
C'est quand même important qu'ils se soucient de l'activité à Arc et dans le Nord-Pas-de-Calais. C'est un devoir pour moi, en fait. Ils sont là pour ça, en fait.
Toujours un peu peur de l'avenir et puis du marché, parce qu'on dépend énormément de nos clients. Ça redémarre tout doucement, les marchés recommencent, les restaurants vont ouvrir. Je pense qu'on va pouvoir sortir de l'ornière assez rapidement.
Et au mois de mars, 225 CDI ont été signés pour continuer de produire des verres comme avant et notamment pour l'Euro de football.
Tous les joueurs de l'équipe de France ont un verre à leur image. Ça a été fait, conçu il y a déjà plus de 4 mois.
Il n'existe pas aujourd'hui de verre Karim Benzema.
Il n'existe pas de verre Karim Benzema.
Voilà, vous êtes déçus Christelle, on essaiera de vous trouver un verre de Kylian Mbappé si vous voulez.
En tout cas, vous m'avez offert une belle transition, merci Vincent Derosier. L'Euro de football, on y vient justement dans un instant.
Christelle Robière,
RTL Midi, en direct de Roubaix.
Christelle Robière,
RTL Midi, en direct de Roubaix.
Tous les pays nous les envient, c'est le titre qui barre la une de l'équipe ce matin avec les photos en bleu, blanc, rouge de Mbappé, Benzema et Griezmann. C'est le beau fixe sur l'équipe de France depuis l'arrivée de l'attaquant du Real Madrid, tout sourire. Mais il est temps, selon vous, Philippe Sanfourche, de passer aux choses sérieuses avec ce premier match de préparation à l'Euro contre le Pays de Galles ce soir à Nice.
Oui, que ce remariage d'amour, nous dit-on, soit consommé pour avoir plus de certitude sur sa solidité, que la Benzemania se traduise sur le terrain au-delà des mots unanimes, positif, relayé par le vice-capitaine Raphaël Varane.
Là, le fait qu'ils reviennent, tout le monde est très content. Je pense que l'équipe de France, ça reste un rêve pour tous les footballeurs. On connaît le joueur que c'est et on est content de le voir avec le sourire.
Ces premières passes qui ne seront toutefois visibles qu'en images, puisque si les Bleus ont fait l'effort de quitter Clairefontaine pour Nice, chez Hugo Loris, c'est dans un stade à huis clos qu'ils évolueront une nouvelle fois ce soir.
C'est toujours un grand plaisir de revenir sur mes terres. Voilà, la seule frustration, le seul regret, c'est que le stade sera vide, mais j'aurai une pensée bien évidemment pour tous les supporters niçois qui auraient aimé être présents au stade.
Les Niçois qui restent les derniers, comme un signe du destin, à avoir vu jouer Karim Benzema sous le maillot bleu il y a 5 ans et demi à l'Allianz Riviera pour un match amical déjà remporté 4-0 face à l'Arménie.
Et la boucle est bouclée. Rendez-vous à 20h45 pour un RTL spécial équipe de France.
RTL, le coup de cœur de nos correspondants.
Et puisque nous sommes à Roubaix, dans la cité du textile, vous avez choisi de nous parler, Franck Hanson, d'une renaissance. L'an dernier, Franck, en pleine crise du Covid, Atelier Résilience a fabriqué des masques et acheté 100 de machines à coudre. Aujourd'hui, plus d'une 100 d'emplois viennent d'être pérennisés.
Oui, c'est une ancienne usine de chaussettes dans le quartier de l'Épeule, avec ses ouvrières derrière leurs machines à coudre. Une véritable ruche à l'image de Roubaix, multiculturelle. Marcel, l'ancienne ouvrière textile, prodigue ses conseils. Des mères de famille voilées cousent des tapis et Isabelle, à 56 ans, a l'impression de revivre.
Moi, je fais des t-shirts, je monte les manches, là. J'ai travaillé en confection quand j'avais 16 ans, pendant 18 ans, et après, je suis partie en logistique parce que la confection avait disparu. Là, j'ai eu l'occasion, après 2 ans de chômage, de retrouver cette place-là. Ça fait plaisir de trouver l'ancien métier que je faisais. Moi, je suis contente.
Et parmi ces salariés qui ont découvert un métier, on croise aussi des jeunes comme Olympe et Simon, avec sa casquette, concentrée.
J'avais cherché à faire des études, mais ça me plaisait pas trop. J'avais ma machine chez moi, je faisais quelques trucs toute seule, mais j'avais pas les compétences pour faire de belles choses.
Pour montrer qu'on peut aussi couper et faire des vêtements, j'ai été aidé par une grande femme qui m'a remis sur le droit chemin en me trouvant un travail.
Et cette femme, justement, à la tête de la structure, c'est Stéphanie Calvino, une Marseillaise d'origine. Alors, l'atelier Résilience continue de fabriquer des masques Covid. Je vous en ai rapporté, d'ailleurs, Christelle,
ah,
tenez,
sympa,
voilà.
Merci.
Et il continue aussi, et il s'est diversifié maintenant avec des grandes marques d'habillement.
On n'est pas là pour gagner de l'argent, mais en tout cas, il ne faut pas que ça nous en coûte. On est là pour permettre à ce que l'industrie textile se dise effectivement, on va venir à Roubaix dans cet atelier pour participer à une relocalisation. Moi, j'y crois.
Une petite revanche sur le passé. Donc, le textile n'est pas mort à Roubaix et les responsables de Résilience ont déjà plusieurs rendez-vous pour les semaines à venir.
Et je vais pouvoir porter le masque du projet Résilience.
Made in Roubaix.
Made
voilà.
in Roubaix, merci. Ça me fera aussi un souvenir. Pascal Pro, de quoi allez-vous parler avec les auditeurs ?
De l'événement du jour, Christelle. Et c'est quoi
C'est-à-dire ?
Eh oui, à votre avis.
C'est du football ?
Mais c'est et encore plus que le football. Le retour de Karim Benzema. Ah. Vous vous rendez compte ? Benzema n'a plus joué en équipe de France depuis la nuit des temps. Et il sera ce soir.
5 ans et demi.
Ben exactement. Il sera sur ce soir. En football, c'est un siècle. Une éternité,
oui,
comme disait une célèbre chanson. Et ce soir, il sera donc sur la pelouse de Nice. Donc, dans cette actualité qui n'est pas toujours réjouissante, eh bien, on a envie peut-être de parler de ça. On parlera évidemment des élections aussi, plus classiquement. Faut-il ou fallait-il rééditer Mein Kampf sur un autre sujet ? Faut-il vacciner les adolescents contre la Covid-19 ? On pourra également en parler. Mais si on peut apporter un peu de légèreté, pourquoi pas ?
Ça va nous faire du bien. La météo, Peggy Broche, dites-moi, les orages arrivent là, sur la moitié nord.
Exactement, Christelle, et ça va concerner au fil des heures, hein, les régions entre la Normandie, l'Île-de-France, les Ardennes, en allant vers les régions centrales. Et plus au nord, les orages pourraient être localement forts avec de la grêle. Dans le sud, entre les Pyrénées, le Massif central et les Alpes, en remontant vers le nord-est, là c'est instable également entre nuages, éclaircies, quelques averses. Les orages seront surtout en montagne et puis la Côte d'Azur et le sud de la Corse vont être à l'écart de ce mauvais temps. On va retrouver des éclaircies qui vont revenir également à l'ouest entre la Bretagne et l'Aquitaine. Et sur l'extrême nord où vous êtes, Christelle, le temps restera agréable cet après-midi. Les orages vont arriver essentiellement en soirée. Les températures, elles sont en baisse par rapport à la veille, mais toujours très élevées hein, pour la saison. 19 à Brest, 24 à Rennes, Limoges et Marseille, 25 à Toulouse et Lyon, 28 à Lille, Paris et Strasbourg.
Et on va pouvoir déjeuner en terrasse au soleil à Roubaix. Merci Peggy. Dans un instant, le rappel des titres, il va être 13h sur RTL.
RTL Midi, en direct de Roubaix.
Il est 13h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Est-ce que vous irez voter pour les élections régionales et départementales ? Nous sommes déjà avec Véronique, bonjour.
Bonjour Pascal.
Vous allez voter ?
Oui, puisque je fais partie, je suis en campagne.
Ah oui, donc vous allez voter pour vous ?
Oh, pas forcément.
C'est au moins voter pour vous. Christelle, le rappel des titres.
Première mise en jambe pour le trio magique de l'équipe de France de football, Mbappé, Benzema, Griezmann. Premier match de préparation à l'Euro ce soir face au Pays de Galles à Nice. Une nouvelle traque ce matin en Ardèche. Un homme de 37 ans a tué son père et grièvement blessé sa mère à coups de couteau à Saint-Just d'Ardèche. 160 militaires étaient à sa recherche. Il a été arrêté. Il souffre de troubles psychiatriques. Emmanuel Macron reprend le pouls du terrain. Le chef de l'État sera tout à l'heure à Saint-Cyr-la-Popie dans le Lot pour échanger avec les habitants. Première étape d'un Tour de France. Et nous partons à Roland-Garros, retrouver Gauthier de Lombugard. Bonjour Gauthier. Trois Français sur les cours aujourd'hui. Caroline Garcia, Enzo Cuoco et Harmony Tan qui jouent en ce moment.
Ouais, bonjour à tous. Et c'est très compliqué malheureusement pour Harmony Tan qui a perdu largement la première manche 6-1, qui est menée 5-2 dans la deuxième. Celle qui est pianiste en dehors du cours a du mal à réitérer son exploit du premier tour avec sa victoire face à Elise Cornet. En face, il y a une sacrée cliente, Markéta Vondrousova, la Tchèque, 21e mondiale, qui avait fait une finale ici même en 2019. Une autre Française est attendue sur la terre battue. On espère que ce sera plus facile. Il s'agit de Caroline Garcia opposée à la Slovène Hercog. Je vous dis plus facile parce qu'elle n'a jamais perdu contre cette Slovène en 4 rencontres. Du côté des garçons, Enzo Cuoco tentera de réaliser l'exploit face à l'Espagnol Carreño Busta. Et puis il n'y a pas que des Français aujourd'hui sur les cours à Porte d'Auteuil.
Bah oui.
Il y a aussi des favoris, notamment Alexander Zverev, l'Allemand, qui mène pour l'instant 2-7-0 face au Russe Safiulin. Stefanos Tsitsipas est lui aussi attendu, ou encore Serena Williams.
Et attention, les premières gouttes sont attendues elles aussi dans l'après-midi. Hein.
Ah oui, bah, que serait un Roland-Garros sans pluie. On attend des orages à partir de cet après-midi aux alentours de 15h. Alors sur le court Philippe Châtrier, ça posera pas de problème puisqu'il est équipé désormais, vous le savez, d'un toit amovible. Mais il y a 13 autres matchs sur les autres courses, sans compter les doubles. Et donc il faudra caser tout cela. On va voir comment ça va se passer. Puis on va suivre avec attention les radars ici à Roland-Garros.
Merci Gauthier.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Praud sur RTL.
Et nous sommes donc avec Véronique. Véronique qui habite Le Mans et qui nous disait à l'instant qu'elle allait se présenter. C'est bien cela aux élections régionales.
En départementale et en tant que remplaçante, pas en tant que titulaire.
Et vous avez le droit de dire sur non, quel...
Ben non, parce qu'après vous êtes obligé de respecter un temps de parole.
Ah oui, temps de parole, donc on n'a pas le droit.
Voilà.
Parce que si vous me disiez le temps de parole, je serais obligé d'interroger tous les gens qui sont sur votre liste. Donc c'est très très important de respecter cela. Donc Véronique, d'abord, pourquoi vous vous êtes engagée ?
Alors, parce que moi j'aime bien, quand je parle de quelque chose, connaître, savoir de quoi je parle.